Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 26 avril, nous sommes au rendez-vous avec vous, ravis de vous retrouver pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec la rédaction bien sûr. Après le flash, nous partirons pour l'Afrique, après une étape en France, rendez-vous également avec vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Nous sommes cette semaine en compagnie de Franck Galland, auteur de chroniques géopolitiques de l'eau sous le titre « Le Grand Jeu » au CNRS édition. Bonjour Franck Galland.
Bonjour.
RFI. Alors que l'eau coule, hein, vous l'avez remarqué, Franck Galland, il faut rappeler tout de suite avant de commencer notre voyage que l'eau est un enjeu majeur des relations internationales aujourd'hui, un enjeu géopolitique.
L'eau est au cœur de la géopolitique mondiale et mieux que ça, l'eau est devenue un enjeu sécuritaire et stratégique. Juste pour se rappeler qu'en 1995, environ 400 millions de personnes dans le monde vivaient dans des zones soumises à stress hydrique, c'est-à-dire moins de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an, ce qu'on appelle la barrière de l'eau, la water barrière.
Le minimum vital.
Exactement, c'est 400 millions de personnes en 2025 qui seront 4 milliards. Donc je vous laisse imaginer tous les enjeux que ça va poser à nos sociétés et à l'évidence aux questions de sécurité et de défense.
Alors nous allons reparler de tout cela tout au long de cette édition d'une semaine d'actualité, mais partons tout de suite, Franck Galland, pour le Qatar. Pour toute autre chose, Amnesty International dénonce en effet la situation des travailleurs domestiques étrangers employés dans ce riche pays du Golfe, on le sait, évoquant des abus, des violences et des formes de travail forcées dans un rapport publié mercredi, correspondance de Doha signée Laxmi Lotha.
Derrière les immenses portails des résidences d'expatriés ou de Qatariens, toutes les dérives sont possibles. Aucun inspecteur du travail ne viendra poser de questions aux familles qui vivent ici. La plupart emploient une bonne pour s'occuper des enfants, faire le ménage, la cuisine, le repassage. Des employés bon marché qui gagnent en moyenne 200 euros par mois. Des travailleuses facilement exploitables car elles sont exclues du droit du travail qatarien. James Lynch, enquêteur d'Amnesty International.
Nous avons discuté avec des représentants du Conseil suprême aux affaires familiales. Ils nous ont dit « Ok, pourquoi pas une loi sur les domestiques, d'accord. » Mais ils ne voulaient pas forcément y inclure, par exemple, le droit à un jour de repos par semaine. Ils n'en voyaient pas l'intérêt.
De nombreux employés de maison travaillent ici 7 jours sur 7, mobilisables à toute heure du jour et de la nuit. Certaines familles les empêchent même de sortir ou d'avoir un téléphone portable. Comme tous les travailleurs, les employés sont soumises à la loi sur le parrainage. Elles ne peuvent changer d'emploi ou rentrer chez elles sans l'accord de leur patron.
Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité.
7 jours dans le monde.
Avant de vous retrouver, Franck Galland, direction le Liban, qui connaît une sécheresse préoccupante. C'est un sujet pour vous. Écoutez ce représentant de l'association CARE.
Le mois de janvier, là cette année, a été un des plus secs dans les dernières décennies au Liban. Et ça laisse présager une pénurie en eau cet été, qui du coup aviverait les tensions entre les réfugiés et les communautés libanaises. Quand vous voyez qu'il y a 1 million de réfugiés au Liban, ce qui représente une augmentation de 25% de la population d'un pays, il y a forcément un stress très fort sur les ressources du pays en question. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de s'assurer que les réfugiés, mais aussi les communautés libanaises, aient accès à l'eau, en améliorant déjà les conditions d'accès à l'eau, donc les infrastructures au niveau des maisons, mais aussi en accompagnant les municipalités à améliorer leurs infrastructures et leurs réseaux d'eau et d'assainissement pour justement que ce service puisse bénéficier à tout le monde.
Propos recueillis par Samy Boukhalifa, une semaine d'actualité, donc il faut que je vous présente. Franck Galland vous a écouté, mais je ne vous ai pas présenté en bonne et due forme. Vous êtes président fondateur d'un cabinet conseil spécialisé en matière de résilience urbaine, c'est ça ?
Tout à fait.
Ça veut dire quoi la résilience urbaine ?
La résilience urbaine, c'est rendre les villes plus robustes par rapport aux situations de crise graves, notamment et essentiellement les catastrophes naturelles.
Ouais.
Donc on travaille à mieux préparer leur capacité de gestion de crise, essentiellement au profit d'opérateurs qui gèrent des services essentiels à la vie, que sont les opérateurs d'eau et d'assainissement.
Alors vous êtes l'auteur de 2 livres sur l'eau, une géopolitique de l'eau en 2008, paru chez Le Même Éditeur, hein, CNRS Édition, et Eau et conflictualité chez Choiseul Édition, c'était en 2011. C'est dire que vous êtes le bonhomme à la bonne place pour commenter cette actualité. Je vous remercie. Le Liban, cette sécheresse au Liban, c'est quelque chose d'insolite ou c'est quasiment normal ?
J'allais dire qu'il eût cru. On a longtemps considéré le Liban comme le château d'eau de la région, à juste titre, de très fortes précipitations en période automnale, des hivers assez rigoureux. Rappelons qu'au Liban, vous avez des stations de ski et des barrages effectivement pleins en période printanière. Alors la faute au changement climatique ou pas, effectivement, deux années consécutives de fortes sécheresses, mais au-delà de ces contraintes climatiques, je crois que malheureusement la faute en revient aux hommes, puisque le manque de gouvernance, comme l'a très justement rappelé mon camarade et ami Fadi Comer, directeur des ressources hydrauliques du Liban, dans un article du Monde il y a environ un mois, l'absence de gouvernance conduit aujourd'hui à une surcharge et une surexploitation des nappes, puisque les habitations libanaises dépendent de groupes électrogènes pour l'alimentation électrique et de forages privés pour leur alimentation en eau, puisqu'il n'y a pas eu, depuis la guerre civile, une vraie stratégie nationale pour l'alimentation en eau urbaine et rurale. Et bien malheureusement, ces nappes aujourd'hui sont à sec, il faut aller toujours plus profond pour produire de l'eau, et il faudrait vraiment, véritablement investir pour pouvoir ne serait-ce que limiter les pertes en eau dans les réseaux libanaises, puisque on estime environ qu'à Beyrouth, 30% de cette eau précieuse part en gaspillage.
Car aujourd'hui, il y a en plus les réfugiés. Un million de réfugiés.
En plus les réfugiés, si on veut faire un parallèle avec la situation d'Amman, aujourd'hui sur les 1,1 million d'habitants que compte Amman, 25% sont des réfugiés.
Syriens.
Sauf que à Amman, Sa Majesté le Roi a pris très tôt conscience de cette problématique. Et pour alimenter en eau Amman, les autorités jordaniennes ont inauguré il y a environ 6 mois un grand transfert d'eau, le transfert de Dizi à Amman, amené de l'eau qui est pompée dans des nappes, je dirais, des aquifères transfrontaliers, puisque c'est à la limite de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie. Et on l'amène sur 325 kilomètres, par une déclinaison assez impressionnante, par plusieurs stations de pompage. Tout ça pour alimenter en eau une ville qui, aujourd'hui, peu de gens le savent, est la première ville de réfugiés au monde.
Alors, il faut préciser, Franck Galland, que quel que soit le pays du monde, le continent de la planète, l'eau revient toujours dans les préoccupations politiques, car il y a un enjeu démographique, alimentaire, derrière tout cela, notamment.
L'eau est liée à la sécurité énergétique. Il faut de l'eau pour faire de l'énergie et il faut de l'énergie pour faire de l'eau. L'eau est liée à la sécurité alimentaire et c'est le véritable sujet. Dans nos métiers, on dit toujours que quand les 1,34 milliards d'habitants de la Chine mettront à consommer ce que nous consommons dans nos assiettes en Occident, le vrai problème sera là, parce que aujourd'hui, pour produire 1 kilo de viande, de bœuf, élevé en batterie d'élevage, il faut quand même 15 000 litres d'eau.
Combien ?
15 000 litres d'eau. Donc on voit bien les enjeux et une agriculture qui est de plus en plus consommatrice en eau, et malheureusement une agriculture qui ne se réforme pas. Et surtout dans des enjeux à fort problématique de sécurité alimentaire, comme la Chine, on pourrait également citer l'Inde, bien évidemment.
Et puis, il y a les besoins élémentaires, justement, de l'individu. Un homme, une femme, boit combien ? 3 litres d'eau par jour ?
On estime, en fait, aux besoins essentiels, à 3 litres par jour et par personne, pour ses besoins d'eau de consommation, à 30 litres pour ses besoins d'hygiène, mais on est quand même à 3 000 litres d'eau par personne pour produire les aliments que nous retrouvons dans nos assiettes. Alors, ces chiffres varient. Un végétarien, par exemple, n'utilise que 2600 litres d'eau par jour pour produire les aliments qu'il consomme. Mais un citoyen américain lambda, avec les habitudes de consommation alimentaire qui sont les siennes, on est à 5400. Voilà. Et donc, le vrai danger, c'est quand ces populations émergentes, prises par un mode de consommation qui est le nôtre, et qu'on ne peut pas leur reprocher.
Évidemment.
Prenons une classe, je dirais, de riches, voire de très riches chinois, qu'on estime à 400 millions de personnes aujourd'hui. La volonté de consommer un Big Mac dans un McDonald's est la même que celle que nous retrouvons en Occident. Sauf que pour produire effectivement un Big Mac, il faut de l'eau, beaucoup d'eau.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour l'Ukraine, Franck Galland. Les accords de Genève signés la semaine dernière et dont nous parlions samedi ne sont plus qu'un souvenir. Kiev a décidé en effet de repasser à l'offensive face aux pro-russes, de relancer en quelque sorte une opération armée. Correspondance d'Anastasia Becchio, mardi.
L'opération est relancée après la découverte de deux corps sans vie qui portent des traces de torture dans la région de Donetsk. Les séparatistes pro-russes ont franchi la ligne rouge, a déclaré le président Alexandre Turchinov. L'une des victimes était un élu local, membre de son parti, le parti pro-occidental Batkivchina. Il avait été enlevé par des inconnus quelques minutes après avoir essayé d'entrer dans la mairie de sa ville occupée, Gorlivka, pour y décrocher le drapeau des séparatistes et y remettre le drapeau national ukrainien. Le ministère de l'Intérieur affirme avoir la preuve que des insurgés pro-russes sont impliqués dans ce meurtre. En dépit de la trêve décrétée par Kiev, la situation n'a fait que se tendre ces derniers jours dans la région, en particulier à Sloviansk, place forte des insurgés, où un avion militaire de reconnaissance a essuyé des tirs hier, selon le ministère de la Défense. Un journaliste américain, Simon Ostrovsky, a été arrêté par des hommes armés lundi soir. Son sort demeure inconnu. Une situation tendue et d'autant plus délicate pour l'armée ukrainienne. La semaine dernière, la première phase de l'opération antiterroriste s'était soldée par des scènes plutôt humiliantes pour l'armée ukrainienne, avec des tanks stoppés par des villageois et des soldats qui avaient dû rendre les armes avant de pouvoir repartir.
Alors justement, ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont tué plusieurs séparatistes pro-russes dans la ville de Slaviansk, accentuant ainsi la tension. Écoutez ce que disait jeudi Julie Garbrandt.
Slaviansk est toujours aux mains des séparatistes, mais l'assaut lancé par les troupes ukrainiennes contre plusieurs barrages aurait fait 5 morts parmi les insurgés, ainsi qu'un soldat ukrainien, d'après les autorités de Kiev, qui ont annoncé la destruction de 3 postes avancés des pro-russes autour de la ville. Les séparatistes de Slaviansk ont, eux, annoncé la mort de 2 personnes cette nuit à un point de contrôle de la zone. Ce matin, 5 blindés de l'armée ukrainienne ont avancé vers un barrage routier situé à quelques kilomètres au nord de la ville. Après 1 heure de combat, les blindés ont reculé et les séparatistes ont pu reprendre et renforcer leur position. D'épaisses fumées se dégageaient de ces barrages. Le maire autoproclamé de Slaviansk s'est rendu sur place en début d'après-midi. Il a déclaré qu'il résisterait jusqu'au bout en cas d'attaque contre la ville. La tentative de compromis international signée à Genève il y a tout juste une semaine semble bel et bien enterrée.
Le temps presse pour mettre fin à cette folie, disait hier le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. Une situation instable, dangereuse à suivre évidemment dans nos journaux. L'actualité internationale cette semaine, c'est aussi la décision d'Israël de suspendre les négociations de paix avec l'autorité palestinienne après l'annonce d'un accord de partage du pouvoir entre le Hamas et l'OLP. Et en Turquie, une première, le Premier ministre Erdogan en effet a présenté ses condoléances aux descendants des quelques 900 000 Arméniens massacrés, on le sait, il y a 99 ans maintenant par les troupes ottomanes. Partons en Chine et nous allons reparler de l'eau, Franck Galland, de l'eau polluée avec une nouvelle pollution dans la ville de Yuan alimentée par le Yangtze. Pékin jeudi, Heike Schmidt.
La municipalité de Wuhan a donné l'alerte après avoir détecté des taux trop élevés d'ammoniac et d'azote susceptibles de causer des cancers. Une enquête est ouverte pour savoir si l'eau contaminée provient de la rivière Yangtze, source d'eau pour des centaines de villes chinoises. À Wuhan, 300 000 habitants et au moins 100 entreprises agroalimentaires font les frais de ce nouveau scandale. Quelques jours seulement après celui qui a frappé la ville voisine de Lanzhou, où 3 millions d'habitants ont été priés de ne plus boire l'eau potable à cause des taux excessifs de benzène. Cette semaine, le gouvernement chinois a publié un rapport selon lequel 60% des nappes phréatiques en Chine sont polluées avec une qualité d'eau potable médiocre ou très médiocre dans 203 villes. Par prudence, beaucoup de Chinois évitent de boire l'eau du robinet et préfèrent désormais consommer l'eau en bouteille.
Voilà, nous sommes au cœur de votre sujet. La Chine occupe hein, une grande partie de votre livre, d'ailleurs, Franck Galland, le grand jeu. Mais avant de parler de la Chine, un mot sur la Russie de M. Poutine et sur la Crimée.
Alors oui, une simple anecdote, ce qui est très intéressant, c'est de voir la stratégie de la Société nationale de production hydroélectrique russe qui s'appelle Russian Hydro, qui est d'ores et déjà rentrée en négociation pour prendre une concession destinée à alimenter en eau les 950 000 habitants de la Crimée. Donc vous voyez, l'eau ne perd pas de temps par rapport à la diplomatie.
C'est intéressant, c'est considéré comme une priorité, vraiment.
Ah bah, alimenter en eau les populations, c'est un moyen de montrer à un territoire qu'on sort de crise. Oui. Donner une eau de qualité en quantité suffisante, c'est un moyen de sortie de crise.
La Chine, 60% des nappes phréatiques polluées.
Alors, la Chine a un énorme problème lié à la quantité d'eau. hein, puisque la Chine n'a pas d'eau. Sur sa partie septentrionale, rappelons juste que la partie septentrionale de la Chine, c'est 45% des 1,34 milliard d'habitants chinois, mais 15% des ressources en eau. Donc ça, c'est le premier sujet de la Chine. Mais le vrai problème de fond aujourd'hui, c'est ce problème de dégradation de la qualité des eaux de surface. Et comme l'a dit effectivement un rapport récent que votre journaliste vient de citer,
Heike Schmidt,
60% des nappes sont polluées. Donc là, on parle des eaux souterraines. Donc, eaux de surface et eaux souterraines sont sévèrement polluées. Et à l'évidence, d'énormes problèmes de qualité sanitaire, mais énormes problèmes de distribution d'eau. Alors, cette pollution, elle est due, et on le voit à travers ce reportage, à des incidents industriels. Ce n'est pas nouveau. Rappelons en 2005 la pollution de la Sangoa, qui est cette grande rivière à l'extrême-orient russe qui traverse la frontière sino-russe pour aller alimenter en eau Khabarovsk.
Oui.
La ville d'Arbin, suite à une pollution au benzène en 2005, n'a pas eu d'eau pendant environ une grosse semaine. Et après, la pollution a traversé la frontière. Les autorités russes étaient absolument mécontentes de découvrir cette situation, impactant également leur population. Donc ce n'est pas nouveau. Ces incidents industriels ne sont pas nouveaux, malheureusement. Ils se répètent. La vraie nouveauté, c'est que depuis 2010, les autorités chinoises reconnaissent que la pollution industrielle, c'est une chose, la pollution minière, c'est une chose, mais la pollution d'origine agricole, c'est le vrai problème.
L'agriculture, parce qu'il y a l'agriculture intensive et des besoins, d'évidence.
Écoutez, aujourd'hui, vous avez une Chine qui est le premier consommateur au monde de potasse. 29% des capacités mondiales de potasse sont destinées à la Chine. C'est un pays qui importe des dizaines de milliers de tonnes de pesticides annuels, alors qu'elle a les premières capacités industrielles au monde de production de pesticides. Pourquoi ? Parce qu'il faut nourrir la population chinoise. La nourrir alors qu'il n'y a plus d'eau. La nourrir alors que les sols sont déjà en situation de surexploitation. Mais l'impératif de sécurité alimentaire est au rang des priorités stratégiques et sécuritaires de ce pays. Et ce qui explique, entre autres, y compris la diplomatie agroalimentaire chinoise, cette
que vous développez
recherche
dans le livre
de terres arables.
De terre, oui.
C'est pas uniquement pour des raisons tarifaires, c'est pas uniquement pour des raisons de sécurisation des appros. C'est d'abord aller chercher des terres fertiles, qui restent fertiles et qui ont de l'eau. Ce qui n'est plus le cas en Chine, malheureusement, sur cette partie nord-nord-est.
Alors ça veut dire que les Chinois sont condamnés à avoir de l'eau polluée. Il va falloir un énorme, le mot est faible, travail de dépollution de cette nappe.
Les Chinois sont condamnés à mettre en place des normes environnementales excessivement strictes et donc à revoir leur modèle de croissance. Très longtemps, on a noté des gouverneurs de provinces chinoises en fonction de leur capacité à générer de la croissance et à maintenir l'ordre.
C'était le mot-clé, et ça l'est toujours d'ailleurs.
Aujourd'hui, il va falloir réintroduire d'autres critères de notation, la préservation de l'environnement. Mais j'ai confiance dans ces autorités.
Et d'ailleurs, préservation de l'environnement, on parle souvent de l'air et beaucoup moins de l'eau.
Alors l'air est un sujet, parce que ça se voit. Je dirais, ces populations avec des masques, un brouillard persistant, rappelons-nous les Jeux Olympiques.
Oui.
La Chine avait trois craintes principales. C'était un acte terroriste durant les Jeux Olympiques de Pékin, un problème d'alimentation en eau, parce que Pékin est dans une zone qui est soumise à stress hydrique intense, et un problème de qualité d'air. Bon, mais la pollution de l'eau, elle est diffuse et permanente. Donc à partir de là, il va falloir la traiter. On va la traiter comment ? Par des normes, et je fais confiance effectivement à ce nouveau président, à ce nouveau premier ministre chinois, qui, au-delà des concepts de Strong China, de Peaceful China qu'ils veulent véhiculer, il y a la
Pacifique.
Wonderful China,
oui.
une Chine enfin respectueuse de l'environnement. Donc, d'énormes sanctions financières vont devoir être mises en place, mais au-delà de ça, il va falloir beaucoup de capacités de dépollution, et pour les opérateurs d'eau, c'est le vrai enjeu aujourd'hui, beaucoup de capacités de gestion de crise, parce que ce type de situation va malheureusement se reproduire, et il va falloir avoir des plans d'urgence d'alimentation en eau potable des populations sur des stratégies d'ultime secours.
L'eau, enjeu politique aussi en Afrique, on le verra dans la deuxième partie de l'émission. Franck Galland, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite.